one man, it doesn't make a difference. Keep the competition coming, and I recite you chapter in verse. The title of this recital is Ladies First.
Bonsoir tout le monde, il est 20h03 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve en ce mardi 25 novembre pour une nouvelle émission de Génération Sport, dernière émission du mois de novembre. Pour l'occasion, trois personnes qui m'accompagnent ce soir de Ligue des Champions. Et le premier qui nous a mis un beau maillot, c'est Robin avec son magnifique maillot d'Arsenal. Salut Robin.
Salut Faustin, salut à tous. Exactement, le petit maillot d'Arsenal pour notamment leur grand match.
Et oui.
Demain face au Bayern Munich, donc ouais, semaine de Ligue des Champions, on va se régaler comme d'habitude.
Que des belles rencontres, on en parlera évidemment plus tard, vous pouvez le voir, son beau maillot si vous regardez l'émission depuis le site internet, vous avez juste à cliquer sur live vidéo en haut du site et vous pourrez voir le magnifique maillot de Robin d'Arsenal. Pour m'accompagner aussi autour de cette table, il y a Paul. Salut Paul.
Salut Faustin, comment tu vas?
Bah très bien, ça va très bien et toi?
Ça va très bien, bah une bonne semaine de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe qui s'annonce, du coup très heureux.
Une belle soirée qui s'annonce. Et enfin, un qui est de retour après deux semaines d'absence, c'est ça? C'est Mathéo.
Oui, quelque chose comme ça. Bonsoir voilà. Faustin. Très content d'être de retour aussi. Alors, un peu diminué par la maladie, malheureusement. Voilà, ça, c'est les aléas de la vie. Ouais. Je suis quand même de retour un peu, bah, comme j'ai dit, diminué, mais on est là et ça fait plaisir.
C'est le retour des grands froids qui nous fait
exactement
du mal.
Exactement. Les changements de température, on passe de quoi ça. De 0 à 8 le matin en une journée. Donc,
c'est terrible.
Ça fait un peu mal, ouais.
Mais heureusement, tu es là pour ce magnifique programme. Évidemment, vous en avez l'habitude, les actualités locales, notamment le SCO Foot. On enchaînera avec la Ligue 1, un petit débat autour du cyclisme et du Tour de France notamment. Cyclisme notamment un peu de également la retraite de Christopher Froome. On parlera du 15 de France ainsi que de beach volley pour terminer l'émission. Et on va commencer sans plus tarder avec les actualités locales et le basket avec la victoire de l'EAB contre le Pôle France. 88 à 72, les hommes de John Daly ont mis la manière pour cette cinquième victoire de suite. Les Angevins retrouvent la troisième place du classement et sont en bonne voie pour se retrouver dans la poule haute. Du côté de l'UFAB, pas de match, elle rejoue demain en Eurocup. Du côté de Cholet, maintenant défaite contre Saint-Quentin, 77 à 68. Les Choletais ont plus de mal en ce moment en Betclic Elite. C'est leur quatrième défaite consécutive dans cette compétition. Et ça commence à se voir sur le classement car les Choletais tombent à la dixième place. Heureusement, ils ont gagné plus tôt dans la semaine en Ligue des Champions contre Bursaspor. 109 à 77, une compétition dans laquelle ils sont plus en réussite et se retrouvent à la deuxième place de leur poule. Maintenant place à une petite trêve internationale avant de reprendre le 3 décembre pour les huitièmes de finale de Coupe de France contre Strasbourg. Du côté des Ducs, d'abord victorieux 5 buts à 1 contre Amiens. Les Ducs ont ensuite subi leur deuxième défaite de la saison face à Chamonix sur le plus petit des scores. Un but à zéro, Cédric n'est pas là, dommage, j'aurais bien interrogé sur la Continental Cup qui avait donc lieu la semaine dernière. Est-ce que Mathéo, toi t'as pu un peu suivre ça du côté des Ducs?
Non, pas vraiment, je suis désolé Faustin, je ne peux pas t'aider là-dessus. Après bon, les Ducs font un bon début de saison, donc on imagine qu'en Continental Cup il y a moyen de faire quelque chose. Les Ducs ils vont jamais non plus super loin, donc pourquoi pas cette année faire quelque chose.
C'est ça. Qualifié en finale donc qui aura lieu du 14 janvier au 17 janvier. On en parlait la semaine dernière. C'est toujours d'actualité évidemment. Maintenant du côté du SCO Handball, là aussi victoire assez surprise. 35 à 30 contre Ponto Combo, pourtant deuxième au classement. C'est la quatrième victoire de la saison pour les SCOistes qui se classent 12e après 10 journées. Là aussi une bonne nouvelle Mathéo.
Ouais, super, super. Sachant que la B aussi n'a pas perdu. Donc c'est une belle semaine, un beau week-end aussi pour le SCO Handball. Donc ça fait du bien pour ce SCO qui était plutôt habitué à perdre l'année dernière. Même la B était plutôt dans le ventre mou, même ventre mou très bas du classement. Donc non, c'est quelque chose de très positif.
C'est ça, le SCO Handball qui n'avait pas gagné un seul match tout simplement la saison dernière, simplement un match nul, un petit point durant toute une saison. Ils avaient été maintenus, on le sait, pour des raisons financières et économiques. Cette saison sert de mieux se passer, ils vont peut-être réussir à se maintenir sportivement, ça ferait plaisir. Maintenant la grosse actualité locale, j'en parlais en début d'émission, c'est le SCO Foot qui s'est donc imposé un but à zéro à Toulouse. On a eu chaud notamment parce que les Toulousains ont touché trois fois les montants, 26 tirs il me semble au total, 45 touches dans la surface angevine. Heureusement, Beldim nous a libérés dès le début du match, ce qui nous a permis de prendre 3 points de plus et de se classer 11e, juste derrière Toulouse justement, avec 16 points, à 5 points du barragiste et à 5 points de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match ?
Comme tu le dis encore une fois, on avance dans notre objectif de l'Europe.
Voilà.
C'est assez clair et net. Mais non, en vrai, je trouve que cette équipe du SCO, malgré les difficultés par moment, on va dire à se créer des actions, a quand même proposé un jeu où on a été solide, on a été solidaire. Et je trouve que cette victoire va faire du bien encore. Encore une fois, je me répète chaque semaine, j'ai l'impression de dire que ça fait du bien, mais elle fait encore plus de bien quand on sait que la période qui va arriver, on affronte Lens à domicile, Nice chez eux, et après il y a le derby, du coup ça va être trois matchs assez importants. Du coup faut espérer que ça continue comme ça sur cette magnifique lancée. Encore une fois un excellent Kofi qui vient nous sauver, et bon, un peu de réussite avec les montants, mais bon, oui, des fois ça fait toujours plaisir.
Ouais, homme du match Kofi clairement. Est-ce qu'il y a un autre joueur qui t'a marqué dans cette rencontre Mathéo peut-être?
Amine Sbaï, hein. Encore une fois, je pense que on est obligé de parler de lui parce que c'est un mec qui est tellement fort et qui a été tellement fort rapidement. Quand même, on rappelle, il est arrivé titulaire directement. Alors c'est un profil dont on avait besoin. On savait que ça pouvait marcher au SCO. Ça marchait directement et ça continue de marcher. Donc Donc c'est vrai que c'est très positif. Après là, Paul, t'as parlé de solidarité. Je pense que c'est ce qui reste de cette rencontre au final, où le SCO a tiré que 6 fois, donc a pas été non plus extrêmement dangereux, a su marquer quand il fallait, a su faire le dos rond aussi quand il fallait. Et ça, c'est quand même la marque d'une équipe solidaire qui a su trouver les ressources aussi. Donc le SCO aujourd'hui se classe dans une catégorie d'équipe qui a pas forcément aujourd'hui le droit d'avoir forcément peur, alors qu'il doit penser forcément au maintien, mais qui fait pas partie de ces équipes je pense qui sont directement impliquées, comme ça peut être le cas pour Auxerre, parce qu'Auxerre produit du beau jeu mais a cette caractéristique offensive assez médiocre. Des équipes comme Metz aussi, qui là a perdu ce week-end, mais qui est resté sur 3 victoires de suite effectivement, mais qui sont quand même aujourd'hui impacté par cette idée de descendre. Aujourd'hui, le SCO, comme on l'a dit, est à égalité de points avec l'éternel dixième de Ligue 1 qui est Toulouse, à un point de Nice, à 5 points de l'Europe. Donc c'est des belles choses. Il faut toujours regarder derrière soi. C'est le principe pour le SCO. Mais aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus rassuré que l'année dernière au même stade, où effectivement on était bien plus bas, mais que même en janvier, où parce que là concrètement cette victoire là c'est un peu un tournant et c'est une consolidation de tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison effectivement.
Mais c'est clair, 5 points de prix sur le relégable, sur le premier relégable qui est donc Metz 17e. On a aussi donc 5 points sur le 16e Lorient et sur le 15e Nantes. Robin, très belle opération du côté de Toulouse.
Franchement, très belle opération du SCO. On savait, ils ont besoin de points en ce moment. C'est très serré, autant en bas qu'en haut du tableau. Voilà, comme l'ont dit, je rejoins mes camarades autour de la table, c'est que quand il manque des actions offensives, faut savoir aussi conserver un résultat et être solide défensivement. Et c'est ce qu'ils ont fait surtout, par l'œuvre notamment d'un énorme, encore, je le répète chaque semaine, mais Ousmane Camara, que je trouve très très solide de semaine en semaine. Donc non, franchement, très très satisfait. Voilà, la réussite aussi, comme l'a dit Paul, mais la réussite, ça se provoque. Donc franchement, très belle opération, surtout au vu des deux prochains matchs. Voilà, après il y aura un match peut-être face à Nantes, ou notamment donc le derby, où faudra aller chercher les 3 points, mais voilà.
Charnière, ouais.
C'était important de prendre ces 3 points avant 2 matchs compliqués.
Mais c'est clair, ce qu'on retrouve donc dans ce SCO, ce qu'on n'avait pas vraiment dans le SCO de la saison dernière ou même du début de saison, nos inquiétudes, c'est des certitudes à tous les niveaux de jeu. On a notre milieu qui est bien défini, voilà, avec le retour d'Abdelli qui a fait énormément de bien, la défense, on parlait avec Ousmane Camara et avec Hervé Kofi dans les cages, qui est une certitude absolue. Là, on pouvait avoir plus de doutes, c'était en attaque, surtout après le départ d'Esteban Le Poll, et finalement Prosper Peter et Sidiki Chérif, qui n'ont pas marqué sur ce match, mais qui sont excellents en ce début de saison. C'est ça qui fait que le SCO est en forme en ce début de saison, finalement.
Ouais, moi, c'est ce que j'étais en train de me dire, en fait, juste avant que t'en parles, mais c'est vrai que Chérif, il a pas beaucoup touché de ballon, il a pas été énormément présent, et pourtant on l'a vu sur les deux premiers buts qu'il a mis en professionnel, il a cette capacité d'être un élément déclencheur à lui tout seul, en prenant la profondeur. Donc forcément c'est un profil qu'on n'avait pas au SCO, parce que même si Le Poll sait gérer sa profondeur, il a pas cette vitesse,
pas cet impact physique non plus.
C'est ça, exactement, ouais. Donc du coup c'est pas du tout le même profil, c'est un profil qui nous va peut-être mieux, sachant que le SCO aujourd'hui a beaucoup plus d'automatisme aussi, parce que est mieux rodé, parce qu'il a des profils plus différents de l'année dernière aussi, parce qu'a su renouveler aussi le rôle dans l'équipe d'Imad Abdelli, qui était plus avant un numéro 10 beaucoup plus offensif, aujourd'hui qui redescend beaucoup, et ça marche, et il arrive à faire cette transition en 8, donc du coup ça marche bien. Effectivement, cette équipe du SCO aujourd'hui, elle a trouvé ses automatismes, et c'est ce qui fait la grande qualité de cette équipe.
Mais exactement, et puis on peut ajouter un nouveau buteur. Voilà, un GESCO, par rapport au quiz de la semaine dernière où on cherchait tous les buteurs du SCO et de Toulouse. Donc Belzim qui est venu libérer, pas vraiment libérer, mais qui a offert cette victoire finalement au SCO avec son but d'entrée de jeu. Le ventre mou pour le SCO, c'est une bonne situation, surtout par rapport à nos inquiétudes du début de saison. On va évidemment suivre ça dans les prochaines journées. Réception de Lens ce week-end, ça va être compliqué. Lens qui est troisième au classement, qui est plutôt en forme en ce moment, va falloir aller chercher au moins un point. Ce serait déjà une belle réussite. Et puis on va voir ce que ça va donner. En attendant, on va parler du reste de la Ligue 1 avec toi, Mathéo.
Oui, exactement. Donc puisque cette semaine, c'était la 13e journée de Ligue 1 avec un derby dès l'entame, Marseille donc qui se déplaçait à Nice, et tout s'est bien déroulé pour les Olympiens, vainqueur 5-1 samedi à Lens. Lens est venu à bout de Strasbourg 1-0. Rennes a largement dominé Monaco 4-1 et continue sa folle remontée au classement aussi, parce que on en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que voilà, des clubs qui sont proches du SCO, Rennes est désormais 6e. Donc au voilà, aux portes basses de l'Europe, on va dire. De son côté, malgré l'arrivée de Pocognoli, Monaco continue de décevoir avec une troisième défaite de rang, mais peut se consoler avec les premières minutes de Paul Pogba, ovationné par le Roizen Park. En fin de journée, Paris s'est imposé non sans litige face à une vaillante équipe du Havre, 3-0. Dimanche, l'OL s'est fait dominer par des Auxerrois qui manquent toujours de réalisme avec un pénalty arrêté par Dominique Graif et un but refusé pour une faute dans la surface de Sekou Mara. Du retour à la réalité pour l'OL qui n'a plus gagné depuis un mois maintenant, et cette victoire à la toute dernière minute contre Strasbourg le 26 octobre dernier. Au niveau du multiplex, le SCO a donc battu Toulouse 1-0. Brest a vécu à domicile une rencontre folle de partout. Un pénalty de Del Castillo arrêté par Fischer, puis 3 minutes plus tard, un nouveau pénalty, cette fois-ci transformé par Del Castillo. Metz met fin à sa belle série de 3 victoires consécutives. Le dernier match de ce multiplex opposait Nantes à Lorient, un but litigieux pour Lorient et une égalisation en fin de rencontre de Chidozi Awazim pour un score final de 1-1. Et enfin, pour clôturer cette 13e journée de Ligue 1, Lille s'est imposée face au Paris FC 4-2, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud. Au classement, le PSG est toujours leader, 2 points devant Marseille et Lens. Lille, Strasbourg ferme un top 5 convoité par des Rennais 6e. En bas du classement, la bonne opération pour Angers, mais aussi pour Brest, qui sort de la zone de relégation occupée désormais par Auxerre, Metz, Lorient et Nantes, qui s'offre un sursis à la différence de but. La prochaine journée nous offrira notamment un alléchant Monaco-Paris, sursaut obligatoire à Louis II pour les coéquipiers dans le Soufati.
Mais ouais, c'est clair que Monaco déçoit un peu en ce début de saison. Je sais que quand on avait fait nos classements justement avant que la saison commence, on les mettait tous deuxième, troisième. Personne les avait mis en dessous de troisième, il me semble, parmi les chroniqueurs présents. Et là, on a une grosse déception, n'est-ce pas, les gars?
Tout à fait. Enfin, je pense que c'est à la fois, il y a eu quelques blessés. Le retour de blessure de Zakaria et de Pogba va peut-être aider. Bon, Zakaria a pris rouge, mais ça va du coup attendre un peu. Mais du coup aussi la défense qui est un peu en difficulté. Il y a eu des recrutements au niveau de ces secteurs-là avec d'ailleurs, mais ça ne suffit pas, j'ai l'impression. Du coup, enfin, faut espérer qu'il y a un nouvel élan qui arrive pour cette équipe, parce que bah il y a quand même du talent, il y a quand même des bons joueurs. Donc j'espère que un match de Ligue des Champions comme ils vont avoir cette semaine va pouvoir les aider à se relever.
Exactement, ouais, justement, ce retour de Paul Pogba, on en parlait. C'était un peu l'événement du week-end, malgré tout ce qui s'est passé en Ligue 1. On a pensé quoi autour de la table? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que on attend plus de Paul Pogba? Et qu'est-ce qu'on a pensé de ces 5 petites minutes de jeu qu'il a eu?
Bah, moi, aujourd'hui, je sais pas quoi m'attendre de Pogba. Honnêtement, ça fait tellement longtemps qu'il a pas joué. Il a 32 ans. Après 32 ans, pour un milieu de terrain, c'est pas si vieux. Donc, on peut avoir un peu d'attente. Après, sur 5 minutes, on a vraiment pas vu grand chose, honnêtement. Donc, c'est très difficile d'analyser ces 5 minutes. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais moi, je trouve qu'il y a pas un côté flamboyant qui s'est dégagé. Voilà, exactement. Après, il rentre quand même. On a un retour de Paul Pogba sur les terrains. Ça, c'est cool. C'est quand même un milieu avec lequel, je pense, on a tous plus ou moins grandi. Donc, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Après, pour l'instant, c'est sans plus.
Ouais, faudra voir dans les prochaines semaines s'il a plus de temps de jeu et s'il arrive à briller sous les couleurs monégasques. Est-ce qu'il y a une autre équipe dont vous souhaitiez parler, peut-être en Ligue 1, qui vous surprend en ce moment?
Rennes qui fait, il y a un mois, ouais, 3 semaines, 1 mois, on sait que c'était surtout en lutte, malheureusement pour eux, pas du tout un objectif de base, mais pour le maintien. Et là, on voit, c'est ça qui est aussi bien avec la Ligue 1 cette année, c'est que bien ou pas bien d'ailleurs, mais c'est qu'il suffit d'un mois de compétition, de 3 bons matchs, et puis finalement, on passe de la 15e, 14e place à jouer les places d'Europe. Donc ouais, Rennes de retour au top, donc ça fait plaisir pour notre championnat d'avoir un petit peu de compétition, même si on voit que le top 3 se dessine un petit peu plus maintenant. Ouais. Voilà, au niveau des places européennes, notamment pour la Ligue Europa, ça va être sympa de voir ça.
Ouais, c'est ce qu'au classement, du coup, le top 3 est à 28 points pour Marseille et Lens et 30 points pour le PSG. Derrière, c'est Lille, quatrième avec 23 points. Voilà pour ce qui est du volet de la Ligue 1 et du football français. On va passer à la pause musicale. Après ça, on va se retrouver pour un petit débat autour du cyclisme et du Tour de France notamment. En attendant, on va s'écouter du Zamdam avec son titre Fleur.
Ouais, mon soleil, ma solitude est polaire. J'mets un manteau ce soir, j'ai froid. T'étais la seule qui pouvait apaiser ma colère. Maintenant t'es loin de moi. J'parle à la lune et elle me raconte les ragots du ciel. Les étoiles parlent que de toi. Dans ma tête j'ai des images d'effroi. J'te vois comme un mirage des fois. Ma baby quand j'fume ma weed. Que j'me rappelle de ton sourire.
J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas. Je te parle mais tu me comprends pas. Je t'appelle mais tu me réponds pas. Je l'ai dit ni je dois vivre sans toi. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Maintenant même les oiseaux ne chantent pas. Regarde ce que t'as fait de moi. Avec un autre, je pète un plan sur lui où je défonce un mur. Chili, tu sais que ma vie ne m'a fait aucun cadeau. Disons ce que j'avais dans mon sac à dos. Reviens vers moi et donne-moi du temps. J'ai déjà pleuré du sang, mais les larmes s'envolent au gré du vent. Qui n'a point son son, laisse-moi danser avec toi. Juste le temps d'une chanson. Oh, 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 oh. Je lève les yeux, c'est un ciel que j'aperçois. Je fais du sale, c'est mon Dieu qui nettoie. J'ai des images d'effroi. Je te vois comme un mirage des fois. Un baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. Un baby quand je fume ma weed. Que je me rappelle de ton sourire. J'oublie que c'est un monde de fou. J'oublie que c'est un monde de fou. À mes yeux t'es la plus belle des fleurs. T'achètes un bouquet mais t'en veux pas.
C'était ce magnifique son fleur de Zamdan sur le 101.5 FM de Radio G ou bien sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez même maintenant nous voir en vidéo en cliquant sur tout simplement live vidéo en haut du site. On va reprendre tout de suite notre émission avec un petit sujet qui fait polémique, qui est apparu il y a de ça 2-3 semaines. C'est, tu veux nous en parler tout simplement, Mathéo?
Oui, c'est ça. Ça date du 11 novembre 2025. En fait, on a l'ancien cycliste professionnel Jérôme Pinault. Je ne sais pas si ça vous parle. Jérôme Pinault, c'est un vieux cycliste. Il a 45 ans maintenant. Il a notamment couru pour Brioche la Boulangère. Voilà. Non, et sinon, il a couru pour Quickstep, où là, c'est un petit peu plus connu. Et puis, il a fini sa carrière à IAM aussi, qui était assez connu. Mais globalement, ce que lui, il a proposé, c'était de rendre payant l'arrivée du Tour de France sur certaines étapes, notamment les plus grosses. On parle notamment de l'Alpe d'Huez, lui, c'est ce qu'il a cité, mais on peut entendre aussi le Mont Ventoux, etc. Est-ce que vous, ça vous parle, ou est-ce que c'est pas un peu à l'opposé de ce que doit être la fête populaire du Tour de France, et notamment à l'arrivée, où voilà, il y a toute cette tension, toutes ces scènes de liesse. Donc voilà, Robin, t'en penses quoi par exemple?
Bah moi je sais que voilà, on sait que surtout sur mes terres, le Tour de France, il a pas forcément l'habitude de passer, mais ça fait toujours plaisir de voir à la télé toutes, comme tu disais, toutes ces scènes de liesse, tout cet engouement autour du Tour de France. Il y a vraiment un gros engouement au niveau national. Donc non, moi je trouve ça dommage. Je suis pas forcément d'accord avec cette chose-là. Parce que ça perd un peu de sa ferveur, un peu de sa magie, de voir tous ces gens euphoriques, etc. Alors que maintenant ils vont devoir payer pour être euphoriques. Le Tour de France, ça a toujours été gratuit, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime, notamment d'assister au Tour de France. C'est un peu, on va dire, la seule compétition populaire auquel on peut assister gratuitement encore aujourd'hui. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que commercialement, voilà, ça a ses avantages et puis c'est compréhensible aussi. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Moi, je trouve ça perd de sa magie.
Du coup, l'idée derrière, ça peut peut-être être de faire un show, ou juste de faire de la rentabilité aussi. Paul, je me tourne vers toi. Pinault, il parlait potentiellement d'une entrée à 5 euros. Est-ce que c'est pas la porte d'entrée aussi derrière pour continuer de faire grimper les prix et créer une arrivée déconnectée Et voilà, impossible à obtenir pour les classes populaires.
Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, ça commence à 5 euros, mais bon, après, avec le temps, peut-être que si ça marche très très bien, bah, ils vont se dire, bah, autant augmenter vu que ça marche très bien. Et du coup, bah, ça va monter à des prix peut-être exorbitants, on sait pas. Mais je trouverais ça dommage. Je rejoins Robin sur le côté extraordinaire du Tour de France. C'est ça qui fait la magie de cette course et même du cyclisme en général. C'est d'avoir cette possibilité d'aller voir une course gratuitement et facilement. Du coup, je trouverais ça très dommage de le faire payer, même si ça a déjà été le cas sur certaines courses, comme le GP du Morbihan. Mais bon, là, c'est le Tour de France, c'est quand même la course la plus regardée au monde et la plus suivie. Du coup, je trouve que ça serait quand même intéressant de garder quand même cet ADN, merci, cherchez mon mot. Cet ADN qu'est le Tour de France avec cette possibilité d'aller voir ça gratuitement.
Bah, surtout que l'arrivée, on peut la voir à la télé et sportivement parlant, elle est peut-être même plus intéressante à la télé aussi. Mmh. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de cette arrivée, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, etc. Et c'est vrai que pour 5 euros, même pour un prix tout autre, en fait, on perd totalement ça, Faustin. Il n'y a plus du tout... Enfin, je sais pas, il y a plus toute cette envie, toute cette énergie, en fait.
Presque. Ça, c'est qu'il y a un truc en plus. Il y a un truc en moins. Plutôt, on perd une énergie de je viens pour voir ça, j'y vais de moi-même, et donc j'ai vraiment envie d'être là pour vivre ce moment. J'ai donné de ma personne pour pour faire quelque chose dont j'étais pas obligé de le faire. Je sais pas comment dire, mais je m'exprime un peu mal là, je trouve. Mais
je vois ce que tu veux dire.
On voit ce que je veux dire, ouais. Mais ça me fait aussi un peu penser au débat qu'on avait quand le départ du coup du Tour de France se faisait dans des pays autres que la France. Est-ce que ça dénature le Tour de France ou pas? C'est pas exactement le même débat non plus, mais ouais, là c'est sur l'aspect populaire, c'est dérangeant. Mais après, je me fais peut-être l'avocat du diable, c'est pas forcément ce que je pense, mais ça peut aider aussi le Tour de France à se développer d'autres manières, à donner plus de visibilité, même si on a déjà beaucoup. Tout le monde n'est pas impliqué par le Tour de France, et ça peut ouais faire parler du Tour de France. Justement, on en parlait, pas juste faire payer l'arrivée pour faire payer l'arrivée, mais offrir quelque chose en plus, un artiste qui vient, je sais pas, faire une scène, faire un petit concert, quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant d'une part, si ça se développe bien et si c'est bien réfléchi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je reste quand même plus mesuré sur ça, dans le sens où quand même le Tour de France, c'est la troisième plus grosse manifestation sportive, si je dis pas de bêtises, du monde. Quand même, c'est aussi une grande fête de l'argent, dans le sens où, voilà, je sais pas, je pense que tout le monde ici autour de la table a déjà vu une étape du Tour de France. Je sais pas pour vous, Paul et Robin, mais on a quand même ces chars qui passent pendant. Les caravanes du Tour de France qui passent. Franchement, quand j'y étais en Auvergne, on est arrivé un peu plus tard, mais ça a dû durer au moins une heure et demie.
Ouais, c'est possible.
Et ça, ils le payent. Il le monnaie. Donc, du coup, il y a déjà cette notion d'argent qui est vraiment ancrée dans le Tour de France. Et c'est vrai que là, c'est l'étape supplémentaire, peut-être même l'étape de non-retour, parce que derrière, pas tout le monde peut se le permettre. Et puis, je pense, parce que le fait que ce soit une grande fête populaire, c'est aussi une grande fête internationale. Et je pense aussi aux gens qui viennent d'autres pays, peu importe lesquels, mais qui viennent, qui payent leur billet d'avion, payent leur billet d'hôtel. Parfois aussi dans des pays où l'argent a pas la même valeur qu'en France, ce qui fait que du coup, quand t'arrives en France, c'est super cher. Tu payes déjà ça, tu payes ça, tu payes ça, et en plus, on te rajoute 5 euros dans des pays où parfois ça peut valoir plus que nous, ce qu'on considère comme 5 euros. Du coup, il y a ce truc-là. Mais on verra si c'est fait. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un peu mal reçu.
Ouais, je pense. C'est pas étonnant. Ce qui pourrait être une alternative, ce serait de faire payer le stationnement uniquement. On va dire sur les cols des caravanes ou des camping-cars qui viennent, plutôt que si tu veux monter toi-même en vélo ou à pied, ce serait encore possible gratuitement, faire payer le stationnement, ça peut être une alternative qui ferait gagner des sous, tout en dénaturant peut-être un peu moins le côté populaire de si tu veux quand même monter et te déterre à y aller tout seul, tu peux le faire.
Ouais, bah carrément, surtout que tu vois les entreprises qui sont là-bas, c'est des entreprises qui ont de l'oseille. Les entreprises qui ont de l'argent, donc tu leur rajoutes un petit peu, je pense que c'est pas non plus ça qui va les faire s'effondrer.
Non.
Voilà.
Ben voilà, c'était notre avis sur ce petit sujet, qui on verra comment ça se développe. Ce sera, à mon avis, pas tout de suite, pas pour tout de suite.
Non, je pense pas, ou alors faudrait vraiment que le Tour de France baisse en régime. C'est pas ce qui peut se passer plus tard, en tout cas, de manière immédiate, je pense que le Tour de France a quand même... une longue trésorerie derrière lui.
Ouais, de belles heures devant lui aussi. Ça risque pas de décoter, on va dire, de manière en termes d'attractivité et de popularité. En tout cas, c'est pas ce que ça semble dégager. Voilà pour ce petit débat. On va continuer sur le cyclisme avec ce que tu nous as préparé, Paul, sur la carrière de Christopher Froome.
Et oui, messieurs, il semblerait qu'un ancien vainqueur du Tour de France arrive au terme de sa carrière. En effet, le quadruple lauréat de la Grande Boucle, Christopher Froome, se retrouve aujourd'hui sans équipe professionnelle. Depuis sa lourde chute survenue en 2019 lors du Critérium du Dauphiné et la grave blessure qui a suivi, le Britannique n'est plus que l'ombre de lui-même. Après la fin de son contrat avec Ineos, Froome avait rejoint l'équipe Israel Startup Nation en 2021. Mais là encore, il n'était jamais parvenu à retrouver son niveau d'antan. On retiendra simplement une troisième place lors de l'étape de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2022, son véritable coup d'éclat. C'est malheureusement une fin de carrière difficile pour celui qui a dominé le cyclisme mondial pendant plus de 7 saisons. Le principal intéressé avait d'ailleurs évoqué en février la possibilité de cette saison soit la dernière dans le peloton professionnel. Et a priori, il aurait tout le temps de profiter de sa vie, que ce soit sur un vélo ou ailleurs. Messieurs, un petit avis sur la fin de carrière de Froome et sur cette possible... J'en perds mes mots, désolé. Cette possible
retraite,
merci.
Désolé. Pas de souci. Mais c'est triste de voir quand ça s'est fini. Il n'est pas vraiment parti en beauté non plus. C'est dommage pour un athlète comme lui. Moi, il m'a marqué. La première scène qui me vient en tête quand on parle de Christopher Froome, c'est la fois où il descend de son vélo et il finit à pied.
Sur
Ventoux, ouais, c'est ça. Ça, c'est l'image, je pense, qui m'a le plus marqué quand j'étais quand même encore assez jeune. Mais moi, ouais, c'est la grosse image et du grand champion qu'il est, de la domination immense qu'il avait, comme peut l'avoir un peu un Pogacar en ce moment.
C'est sûr que si dans notre génération à nous, on nous parle d'un cycliste, on est beaucoup marqué, nous qui regardons français le Tour de France surtout, on est beaucoup marqué par Christopher Froome qui a juste terrorisé le Tour de France et tous les cyclistes du Tour de France pendant de nombreuses années. Donc, fin pas comme on l'aurait espéré, comme tu l'as dit, mais voilà, un grand hommage à cet immense champion qui, ouais, beaucoup de respect parce que il nous a traumatisé, nous et surtout Romain Bardet, qu'on espérait qu'il puisse prendre un Tour de France, mais voilà, ça se passe pas comme on l'a voulu.
C'est vrai que c'est un mec frustrant quand même, Froome.
Ouais.
Même frustrant,
un peu chauvin.
C'est ça, mais même au-delà de ça, pour le show, comme peut l'être Pogacar en ce moment, ouais, mais à l'époque, ouais, les Quintana, tout ça, qui pouvaient même pas Bardet, c'est sûr, on en parle parce que nous, on est français, mais il y en avait d'autres. Et c'est vrai que, voilà, c'est des coureurs qui avaient pas la possibilité de gagner un Tour de France parce que Froome, il était là. Et c'était d'autant plus frustrant, en plus que Froome, c'est un mec qui avait la meilleure équipe, la Sky, quand même, qui a révolutionné le cyclisme avec des petits calculs d'apothicaire que maintenant tout le monde fait. Et, pour gagner du temps, pour, gagner de la fraîcheur, etc. Et c'est vrai que du coup c'était frustrant parce que Froome c'était pas le plus grand fantasque du cyclisme, c'était pas le mec qui allait comme Pogacar peut le faire attaquer. C'était un mec qui restait vraiment avec son équipe, qui grattait des minutes et quand il pouvait distançait une, deux, trois fois par Tour de France les autres favoris. Donc c'est vrai que c'était assez frustrant et puis globalement après sa fin de carrière, elle est aussi assez frustrante.
Ouais.
Parce que déjà, avant sa blessure, c'était compliqué. Quand Geraint Thomas il va gagner le Tour, c'est parce que lui a un gros coup de moins bien aussi. Derrière, il rejoint l'équipe d'Israël. Voilà. Donc forcément, déception en plus. Et puis même au-delà de ça, c'est un mec qui a baissé drastiquement de niveau d'un coup. Et du coup, ça donne quand même vachement raison aux personnes qui pouvaient le suspecter de dopage. Ce qui, du coup, est dommage. Moi, je sais pas si c'est un mec dopé. Et puis, c'est même pas à moi de concrètement le dire ou le voir. Mais c'est vrai que du coup, ça casse un peu la légende juste parce qu'il a vraiment perdu du niveau d'un coup.
Ouais.
La dernière fois qu'on a entendu, enfin, moi, j'ai entendu parler de Froome. Déjà, je pensais qu'il avait pris sa retraite. C'était cet été au Tour de France où il y avait le Tour de France. Et pendant ce temps-là, lui, il faisait rouler son favori autour de Roumanie, quoi.
Ouais,
donc c'est vrai que ça casse un peu la légende, mais sinon oui, dans les années fortes, je pense les années où nous on a connu le Tour de France avec qui étaient vraiment des belles années en plus pour le cyclisme français, lui c'était la légende absolue.
Mais tout à fait, ouais, belle carrière quand même pour Christopher Froome qui malheureusement ne se finit pas comme on l'aurait espéré, qui part par la porte de derrière, j'ai envie de dire, et c'est malheureux, mais quand même un grand respect à ce grand cycliste qui est Christopher Froome. On va enchaîner avec le football, on y retourne, et le football européen, cette fois avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence qui concerne tous nos clubs français évidemment.
Exactement, puisque Marseille a rendez-vous pour sa qualification ce soir au Vélodrome face à Newcastle à 21h, puisque les Marseillais, 25e et hors des places qualificatives pour les barrages, doivent impérativement prendre des points face aux Magpies. En attendant, des matchs sont déjà en cours avec l'Ajax qui reçoit Benfica et on a également l'Union Saint-Gilloise qui est en Turquie face à Galatasaray. Alors si je ne me trompe pas, c'est quasiment fini. Benfica mène 2-0 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam et l'Union Saint-Gilloise également à la 90e minute mène 1-0 sur la pelouse de Galatasaray réduit à 10. En plus de cela, on a également une grande affiche qui nous attend ce soir avec les Blues de Chelsea qui reçoivent le FC Barcelone, avec notamment le retour de Rafinha, qui a déjà eu un petit peu de temps de jeu ce week-end face à Athletic Bilbao, et également celui de Marcus Rashford. Ce soir à l'affiche, on pourra également suivre Manchester City face à Leverkusen, Dortmund face à Villarreal, ou encore la Juve qui se déplace en Norvège pour affronter Bodo Glimt. Pour le PSG et Monaco, tout se jouera jeudi, avec pour les Parisiens la réception de Tottenham et un retour aux sources au Parc des Princes, pour notamment les deux anciens Parisiens, Randal Kolo Muani et Xavi Simons, en grande difficulté avec le club londonien sur le début de saison. De leur côté, les Monégasques, eux, qui pourront compter, on en a parlé tout à l'heure avec les sujets sur la Ligue 1, sur Paul Pogba, pour sa grande première avec le club du Rocher, en Ligue des Champions, après son grand retour, donc sans 3 ans sans jouer, ce week-end face à Rennes. Donc ces Monégasques, ils iront voyager à Chypre pour affronter Paphos à 18h45 demain. Et on a également, on en a parlé en début d'émission avec Arsenal, des très belles affiches telles que Arsenal donc face au Bayern Munich ou encore Atlético Madrid qui seront également à suivre ce mercredi. Du côté de l'Europa League, Nice se déplacera à Porto jeudi, toujours en quête de son temps recherché premier point. Les Lillois accueilleront les Croates du Dynamo Zagreb au stade Pierre Mauroy et Lyon de son côté sera du voyage du côté de la Serbie pour une rencontre face au Maccabi Tel Aviv, donc rencontre qui est délocalisée, on en a parlé notamment par rapport au conflit israélo-palestinien. Et enfin, une rencontre plutôt intéressante à venir ce jeudi également pour Strasbourg, qui accueillera le Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta en Conference League à la Méno. Les Strasbourgeois 7e poursuivront alors leur course au top 8 pour tenter d'accrocher donc cette qualification directe en 8e de finale. Marseille ce soir, donc messieurs, avec donc on l'a dit seulement 3 points et en dehors de la zone qualificative pour les barrages. Est-ce qu'on est confiant autour de la table pour notre premier club français qui joue pour cette 5e journée de Ligue des Champions?
Confiant, je dirais pas confiant non plus parce que ça reste Newcastle hein, qui est peut-être moins en forme cette saison en Première Ligue, même s'ils viennent de battre City quand même. Donc ils sont peut-être un peu boostés par ça. Après. Marseille peut le faire, ça, c'est au Vélodrome en plus, donc ils seront évidemment galvanisés par cette ambiance qu'on connaît si bien. Mais ouais, je dirais pas confiant, ça va être serré, ça va être compliqué, va falloir aller l'arracher à l'envi celle-là. Mais on sait jamais, ils peuvent le faire. Je mets les équipes sur un pied d'égalité, honnêtement, je saurais pas donner un vainqueur avant le match, c'est dur à pronostiquer. Mais si je veux me risquer, je vais être un peu chauvin et je vais dire que Marseille va l'emporter.
Et puis j'annonce quand même ce qui a suivi. Je parle de qualification d'ores et déjà parce qu'après seulement avec 3 points, il y a la réception de Liverpool, il y a un déplacement en Belgique à l'Union Saint-Gilloise et il y a également un déplacement une nouvelle fois en Belgique face à Bruges, donc le club Bruges, donc très compliqué le reste du calendrier. Qu'est-ce qu'on en pense, Paul, toi plutôt côté Marseille?
Ouais, bah je pense que c'est un match très très compliqué parce que bah comme l'a dit Faustin, Newcastle ça peut être compliqué en PL, en Ligue des Champions ça marche très très bien. Donc là va falloir que les joueurs sortent un très gros match pour espérer du coup accrocher cette qualification car comme tu l'as dit le calendrier ensuite est pas facile. Donc non, j'espère un gros match, un Vélodrome en feu, on le sait très bien et on va encore le voir ce soir et il faut espérer que les joueurs soient au rendez-vous pour nous prouver que cette équipe a le rang européen dans son sang.
Ouais, effectivement, je peux rajouter quelques trucs aussi, dire quand même qu'on a une équipe effectivement qui est plus en forme en Ligue des Champions qu'en Première Ligue, comme tu l'as dit, Paul, qui est quand même 6e, qui reste sur 3 victoires de suite aussi en Ligue des Champions, donc c'est pas mal. Volte Mateux qui marche plus, alors même si il marche quand même très bien en Première Ligue, mais qui marche plus quand même parce qu'il est à l'équivalent d'un but par match en tout cas en ce moment en Ligue des Champions. Bruno Guimaraes qui est toujours aussi fort. Non, on a vraiment une belle équipe de Newcastle sur le papier qui marche peut-être plus que Marseille. Après, c'est le principe de la Coupe d'Europe aussi d'avoir des surprises et ça. Marseille de jouer le jeu, surtout qu'en ce moment ça va très bien aussi pour les Olympiens, donc on pourrait s'attendre à une surprise.
C'est Marseille qui a été malheureux en plus, hein, clairement depuis le début de la saison en Europe, pas plus tard que la dernière rencontre, avec ce but près la dernière minute, après une main litigieuse, plus que litigieuse même dans la surface de réparation, sans parler du premier match contre le Real Madrid.
Même face au Sporting, réduit à 10,
voilà.
Donc compliqué, ouais. Des faits de jeu pas à leur avantage.
C'est ça.
Donc compliqué et puis ambiance chaude, je pense que voilà, ça va les galvaniser comme l'ont dit les gars. Donc on espère une victoire des Olympiens parce que sinon c'est vrai que ça s'annonce compliqué pour la suite de leur parcours en Ligue des Champions.
Bah, carrément, ouais. On peut parler aussi rapidement du match du PSG qui aura lieu donc demain face à Tottenham. Une fois de plus, un club français qui reçoit un club anglais. Le PSG a gros à jouer pour conserver une place dans le top 8 et se l'assurer même presque. Ça va être important contre Tottenham, ça va être compliqué, même s'il y a eu du retour de certains joueurs et aussi du départ, notamment Hakimi par rapport au dernier match contre le Bayern.
Oui, ça va être compliqué parce que Tottenham, moi en tout cas, c'est une de mes équipes préférées de cette saison pour l'instant. J'adore le jeu de Thomas Frank et j'adore aussi le recrutement qui a pu être fait au niveau de Tottenham. Donc forcément, et puis il faut voir comment Kudus marche sur l'eau aussi en Ligue des Champions, ça fonctionne vraiment bien pour lui. Donc forcément, c'est une équipe un peu piège, une équipe piège qui arrive pas forcément à faire quelque chose face au gros, notamment en Première Ligue quand même, où ça se passe pas forcément bien. Par contre, en Ligue des Champions, il n'y a pas de défaite pour Tottenham. Donc force est de constater que le PSG peut être la première équipe à faire tomber cette équipe de Tottenham, mais je ne serais pas rassuré pour les Parisiens quand même, parce que c'est une équipe qui du coup est irrégulière, et comme elle est irrégulière, peut avoir des fulgurances qui peuvent s'avérer dangereuses pour le Paris Saint-Germain. Ouais.
Sur la table, pareil, on voit qui vainqueur un peu de cette rencontre.
Bah, le Paris Saint-Germain doit se racheter quand même de cette mauvaise performance. Après, c'était quand même une grosse opposition en face, mais cette mauvaise performance face au Bayern, surtout la première mi-temps. Donc on attend de voir quel visage vont afficher les Parisiens. Voilà, il n'y a pas non plus de signal d'alarme après la défaite contre le Bayern. Ça serait pas non plus un gros danger de perdre face à Tottenham, mais ça ferait tâche quand même deux défaites d'affilée. Donc oui, important en plus à la maison de redonner un beau visage et puis de rester dans ce top 8, parce que on le sait, le PSG a les armes pour, malgré le fait qu'ils aient perdu Hakimi. Voilà, il y a le retour de Dembélé dans le groupe, on sait qu'il sera sûrement pas titulaire, mais donc oui, plutôt avantage PSG, mais attention, comme l'a dit Matteo, il y a eu un gros recrutement cet été du côté de Tottenham, et puis ils prônent du beau jeu, donc attention à se méfier pour les Parisiens.
Ouais, on va faire attention à ça. On peut parler aussi des deux grosses rencontres, je pense, qu'on va avoir mardi et mercredi. Je vais commencer par parler de Barcelone contre Chelsea, le deuxième de Premier League contre le deuxième de la Liga. C'est à Chelsea. Ça va être compliqué. Pareil, le Barça qui récupère des joueurs par rapport à ces dernières rencontres, notamment Rafinha, qu'on espère revoir, peut-être pas titulaire non plus. Les compos ont dû tomber, j'ai pas regardé ça, mais ouais, Rafinha qui ne sera peut-être pas titulaire, peut-être que ça me fera mentir aussi. Le retour de Rashford aussi, une profondeur de banc que le Barça va retrouver. On va espérer un beau match, sûrement très ouvert comme on a l'habitude avec Barcelone. Chelsea, quand on parle de profondeur de banc, c'est aussi très en place, donc un match qui va durer 90 minutes pour de vrai.
Et pas de Rafinha et pas de Rashford dans le 11 de départ. C'est plutôt logique.
Ouais, plutôt logique. Au vu de ce qu'on a vu ces dernières semaines, mais ouais, ça va être un match très intéressant. Personnellement, celui que je vais suivre ce soir, sans doute. Peut-être que toi, t'en suivras un autre demain, Romain.
Ouais, plutôt après, il y a plusieurs matchs intéressants pour demain soir. Donc non, on va se régaler même ce soir. Ouais, le petit multiplex toujours occasionnel. Et puis franchement, Chelsea-Barça, moi je m'attends à des buts. Je m'attends à des buts de chaque côté avec deux équipes qui tournent plutôt bien. On le sait que Chelsea est plutôt en forme en Première Ligue. Ils sont deuxième du championnat, si je me trompe pas. Donc non, ça va être intéressant comme rencontre. Moi je m'attends à des buts et puis un beau spectacle.
Ouais, et puis demain du coup.
Arsenal-Bayern. Avec le beau maillot, exactement. Des matchs qui nous ont habitués, on s'en souvient, avec 3-5-1 pour le Bayern Munich dans leur confrontation. Donc sûrement également du spectacle demain soir aussi avec Atlético Inter, avec PSG Tottenham. Ouais. Non, c'est une belle journée de Ligue des Champions, là.
Ouais, ça, la semaine dernière, je trouvais qu'on avait un peu moins de.
Ouais,
de...
c'était un peu moins d'affiches.
Voilà, il y avait le PSG Bayern. Enfin, la semaine dernière.
La dernière journée, oui. Il y avait le PSG Bayern, mais sinon, pas riche en grosses affiches. Donc là.
C'est ça, alors que là, on va se régaler, tout simplement, avec toutes ces grosses affiches. Ça va regarder quoi, sinon, Matteo et Paul, ce soir et demain soir?
Bon, ce soir, je pense que. Peut-être que je vais zapper sur Marseille à la fin. Alors moi du coup je vais au ciné, donc ce sera plus après quand je reviendrai. Mais potentiellement je pourrais remater un match. Et puis demain forcément Arsenal-Bayern, c'est compliqué de passer à côté. À voir ce que ça peut donner, hein. Franchement, Arsenal-Bayern, c'est pas évident. Même au niveau de la qualité de jeu ou en tout cas de la qualité de spectacle, on va voir ce que ça peut donner. J'ai mis quelques réserves dessus, mais on peut toujours être étonné. C'est ce qu'on avait dit sur le Arsenal-Atlético. On s'était moqué et finalement ça avait bien marché.
De ton côté, Paul?
Moi, ce soir, je vais regarder Marseille, puisque mon cœur de Marseille a envie de voir un peu ce match. Et demain, je pense que je vais un peu alterner entre le PSG Tottenham et Arsenal Bayern, parce que c'est deux matchs qui vont sûrement être très intéressants dans le niveau de jeu proposé.
Ben voilà, pour un peu toute cette soirée Ligue des Champions qui nous attend ce soir et demain. Ne quittez pas, évidemment, restez là jusqu'à 21h. Les matchs commencent qu'à 21h. Donc, on va enchaîner tout de suite, même si on ne parle plus de football. Restez, ce sera, on va parler de rugby, toujours du ballon, toujours de la pelouse avec le 15 de France.
L'équipe de France recevait l'Australie au Stade de France pour son dernier match de la tournée d'automne. Après une défaite contre l'Afrique du Sud et une victoire au forceps contre les Fidji, les Bleus voulaient terminer en beauté afin de conserver leur statut de tête de série pour le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde. Mais la rencontre a très mal commencé. Les lacunes défensives des Français sont réapparues et ont permis aux visiteurs d'ouvrir le score dès la troisième minute grâce au talonneur Faessler. Malgré ce début compliqué, Nicolas Deporter, déjà buteur contre les Fidji, a remis les Bleus à la hauteur. Pourtant, à la 21e minute, les Wallabies ont repris l'avantage par un essai de Bell. Les Français n'étaient pas encore bien entrés dans leur match. En seulement 6 minutes, les Bleus vont se remettre la tête à l'endroit avec des essais signés Thomas Ramos et Louis Bilberet, prenant ainsi l'avantage pour la première fois de la soirée. Malheureusement, juste avant la mi-temps, Faessler s'offre un doublé, obligeant les Français à tout recommencer. En prenant régulièrement le dessus sur les Wallabies dans les ballons portés, les Bleus se sont libérés. Ils ont inscrit l'essai du break par Deporter à la 52e minute, puis un autre par Julien Marchand à la 64e, alors que Max Jorgensen avait réduit l'écart grâce à un rush solitaire à la 55e. Pour sceller définitivement la victoire, LBB a inscrit un dernier essai permettant à la France de s'imposer 48 à 33. Avec ce succès, la France sécurise son place dans le top 6 et donc son statut de tête de série pour le tirage de la prochaine Coupe du Monde. Un moindre mal pour conclure une tournée d'automne qui aura apporté autant de doutes que de satisfaction. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match et du coup, enfin, on peut se dire qu'on est dans le top 6 et on aura un statut de tête de série pour la prochaine Coupe du Monde.
Ça, c'est, on va dire que le job a été fait, peut-être pas avec la manière sur ces trois matchs de cette trêve, mais au moins ça a été fait. On aurait pu espérer mieux quand même. C'est dommage, pas mal d'erreurs d'inattention, d'essais encaissés qui auraient pu être clairement évités. On a encaissé beaucoup de points aussi. Ça, c'est les bémols un peu de cette équipe de France qu'on a vu sur ces trois matchs. Mais le travail est fait, va falloir se relever et être plus fort, notamment pour ton destination qui arrive bientôt. Mais sinon, on va dire que on va rester sur cette idée que le job a été fait, un peu comme l'équipe de France de football, j'ai envie de dire, voilà, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est le plus important.
Ouais, je te rejoins. Après, j'avoue que moi, j'ai pas trop suivi ce match face à l'Australie. J'avais suivi les deux précédents, mais voilà, le job est fait comme tu le dis. Après, il y a toujours des choses à améliorer. On l'a vu, il va falloir être plus rigoureux et voilà, ça améliorer des détails, mais voilà, le job est fait et puis c'est le principal, ouais.
Exactement. Voilà pour ce qui est du rugby. Si personne n'a rien à rajouter, on va passer avec du beach volley et l'exploit des Françaises.
Des Français,
plutôt. Pardon.
Mais avec ce grand froid, on va plutôt se diriger vers un sport plutôt avec du soleil, puisque ce dimanche, l'équipe de France a créé l'exploit lors des mondiaux à Adélaïde, en Australie, en décrochant la médaille de bronze, la première médaille, pour des Français aux championnats du monde depuis leur création en 1997. On le rappelle donc pour ceux qui ne sont pas vraiment amateurs de ce sport, ça se joue à 2 contre 2. Et ce sont Théo Rotard et Arnaud Gauthier-Ra, associés depuis seulement un an, qui ont créé la sensation. Un premier exploit a eu lieu en 8e de finale avec l'élimination des Qatariens Sherif Younous et Ahmed Tijane, demi-finalistes olympiques à Paris. Défaits face aux Suédois en demi-finale, ils ont réussi à se remobiliser, en s'imposant face aux Allemands, vice-champions olympiques lors des derniers JO, 2-7-0 lors du match de la troisième place. Donc ces mondiaux 2025, cette compétition donc marquera donc ce sport et l'histoire du beach volley français, surtout après la contre-performance et cette équipe de France qui n'avait pas fait fière allure lors des JO puisqu'ils avaient terminé dernier de leur poule, dernier quatrième. Bon, je ne sais pas si on a un avis autour de la table puisque c'est plutôt un sport niche qu'on n'a pas l'habitude de suivre, mais
c'est vrai qu'on c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu passer non plus, mais quand on parle de ça, on a évidemment les JO en tête, et surtout, on va pas dire les JO de Paris, mais plutôt ceux de Los Angeles qui arrivent. Et si on peut performer comme ça sur un sport en plus, au vu de ce qu'on a vu à Paris, ça peut nous rajouter une médaille en plus. On va pas cracher dans la soupe, et ça peut être excellent. Ça peut nous faire vibrer encore plus en 2028, ce serait parfait.
Le problème, c'est que les équipes sont pas toujours fixes.
Ouais.
Donc on l'a vu, c'était pas du tout. Il y avait aucun des deux joueurs qui était présent lors des JO à Paris 2024. Donc voilà, jusqu'à 2028, il y a du chemin encore. Donc
c'est ça. Donc
à voir. Mais si on peut garder cette équipe-là et cette régularité, ça pourrait être top pour aller, pourquoi pas, oui, faire un nouvel exploit et aller chercher une médaille au prochain JO à Los Angeles.
Exactement. C'est ce qu'on va souhaiter aux beach volleyeurs français. En attendant, moi je vais vous parler de basket, de NBA. Je vais être assez court parce que je vais en parler tout seul. Paulin est malheureusement par là et comme je suis là et je suis tout seul, je vais évidemment parler de mon équipe favorite, Toronto, qui est deuxième de la conférence Est. On n'avait pas vu un démarrage comme ça depuis 2019, l'année du titre évidemment pour Toronto. Actuellement 8 victoires d'affilée. Alors on peut dire que le calendrier a été plutôt clément avec les Canadiens. Voilà, pas beaucoup de grosses équipes qui ont été affrontées, mis à part les Spurs et les Rockets. Après, on a des équipes plutôt en difficulté. Si on prend les dernières, il y a eu les Pacers. On sait qu'ils sont fortement diminués depuis la blessure de Tyrese Haliburton, les Cavs qui ont du mal en début de saison, les Wizards qui depuis des années ont du mal, mais ouais, très très belle surprise de la part de Toronto qui fait sa force par cette complémentarité des joueurs. On a RJ Barrett qui s'est scoré, on a Brandon Ingram qui s'est scoré, on a Scottie Barnes qui s'est scoré, et c'est beau à voir, c'est du beau basket. Franchement, c'est une équipe évidemment que j'apprécie voir, comme c'est mon équipe favorite, mais c'est vraiment du basket comme j'aime le voir, et ça me fait plaisir d'en parler ici une fois de plus.
C'est vrai que c'était même pas une équipe que toi t'attendais aussi haut. Finalement, quand vous avez fait vos prévisions avec Paulin en début de saison, en ce début de saison de NBA, vous l'attendez pas du tout là, que ça soit lui ou toi. Donc
pas grand monde attendait les Raptors à ce niveau. Après, ça reste que la conférence Est qui est vachement plus faible que la conférence Ouest, faut le dire. Mais quand même, un départ aussi fort, même à battre des équipes à l'Est, je les voyais pas battre les Cavs, même si les Cavs sont diminués par rapport à la saison dernière. C'est quand même des beaux exploits et un beau début de saison, 8 victoires d'affilée, c'était assez inattendu. Donc 13 victoires, 5 défaites en ce début de saison. En espérant que ça dure, que je puisse revivre des playoffs. Ça fait 4 ans que j'ai pas vécu des playoffs en suivant mon équipe. Donc depuis le titre, en fait, il y a eu le titre et après il y a plus rien. C'est bien dommage, mais j'ai de l'espoir pour cette saison de ce que je vois en ce début de saison. Donc en espérant que ça continue. Voilà. Pour ce qui est de la NBA, après sinon les Pistons toujours premiers à l'Est et le Thunder toujours premier à l'Ouest avec une seule défaite. Ils sont en route aussi pour battre le record de victoires s'ils continuent comme ça. Ça peut être une année assez historique en NBA. On va finir cette émission rapidement, comme la semaine dernière, quand on va essayer de faire toutes les semaines maintenant, avec un petit quiz que tu vas nous présenter, Robin. Il porte sur quoi cette fois ?
Sur l'Olympique de Marseille, donc, qui joue ce soir, on en a parlé. Alors, on n'est pas beaucoup autour de la table, donc forcément, il n'y aura pas beaucoup de compétition. Donc,
Mathieu,
ça se joue entre
Mathieu
vous deux.
Est parti au cinéma.
Voilà, et puis Paulin et Cédric ne sont pas là. Donc, messieurs, je vais vous demander de citer à tour de rôle les meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. On va dire le top 10 des meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Et celui donc qui en aura pu aura perdu. Et le dernier qui restera aura gagné ce petit quiz. Plutôt okay. Côté avantage côté, ouais, côté Paul, peut-être.
Peut-être même niveau football en général, il est plus qu'avec moi, je pense. Donc,
Bon, je vais commencer avec un petit tapine. Je pense Papin.
Jean-Pierre Papin, numéro 1, en effet.
Jean-Pierre Papin, est-ce qu'on a Gignac?
André-Pierre Gignac qui n'est pas là, exactement.
Ça fait plaisir.
Est-ce que
Abedi Pelé
n'est pas là non plus.
Et ben,
on va compter en scoring au pire parce que sinon c'est plutôt ouais. compliqué.
Florian Thauvin.
Florian Thauvin n'est pas là non plus.
Ah, c'était pas où qu'on en Europe peut-être.
Non, un peu moins en Europe.
Valbuena.
Valbuena n'est pas là non plus. Valbuena n'est pas là.
Ah, faut revenir à l'époque de nos anciens, je pense, pour retrouver les buteurs. Ça
dans l'équipe actuelle, il y a pas tant d'anciens que ça. Il y a surtout de notre époque. Il y a surtout de notre époque et il y en a un encore actuellement qui est actuellement dans l'équipe encore.
Okay.
C'est à moi.
Oui.
Dans l'équipe actuellement. Arrête. Y a pas Aubameyang.
Si Aubameyang.
Ah ouais.
Troisième. Troisième en Coupe d'Europe. Exactement.
Payet.
Payet,
ah bah oui.
Quatrième.
Évidemment. Des joueurs pas trop anciens qui ont joué à Marseille. Des buteurs, j'imagine.
Mmh.
J'ai un petit trou de mémoire là. Je te laisser répondre, Paul, en vrai.
Alors, je tente. Drogba.
Drogba, quatrième égalité avec Payet, exactement. Après, ouais, c'est quasiment que des neufs, mais de notre génération.
Mamadou Niang.
Mamadou Niang, numéro 2.
De notre génération, t'as dit?
De notre génération que tu. Que oui, nous, okay. on a vécu, on a encore 4 sur les 5.
Brandao.
Non.
Non, je vais essayer. Attaquant ou pur neuf?
Il y a surtout des purs neufs.
Ok.
Que alors il y en a un, il était encore là il y a ouais deux trois saisons.
Ah, ils sont tous retraités là?
Non, du tout.
Peut-être Milik.
Milik, okay. Exactement. Ouais. C'est lui que je pensais. Il nous reste, si vous voulez, les nationalités pour vous aider. Un Ghanéen, un Français, deux Français et un Argentin.
André Ayou
pour le Ghanéen. Le Français plutôt la France est plutôt moquée de lui. Voilà, on a plutôt un mauvais souvenir de lui avec un niveau plutôt qu'on a qualifié de mauvais. Mais en Coupe d'Europe, il est dans le classement. Donc
Kivarch.
Non, de notre génération.
Épine Maïs,
exactement. Valère Germain, avec 7 buts. Il est dans le classement, exactement. Voilà. Et il en reste 2, donc un Argentin.
Benedetto?
Non, l'autre neuf Argentin qui était à... Comment je pourrais t'aider? Sans te donner l'indice. Ouais, il était là il y a pas beaucoup de saisons. Mais il y a pas beaucoup de neufs argentins, non?
Ouais, bah attends,
toi, supporter de Marseille.
Bah attends, mais je suis perdu là. Attends, je me perds moi-même.
Et après, c'est un ancien plus compliqué. Ouais.
La honte, non, franchement, Paul.
Peut-être, il y a Gomis, peut-être?
Non. Non, parce que l'autre, tu le trouveras pas, c'est vraiment un ancien.
Ah ouais?
Mais pour le coup, l'argentin, tu pourrais le trouver.
Ah, Ocampos.
Ocampos.
Ah, mais
exactement.
Voilà, mais c'est un ailier, c'est pas un
Ocampos. Neuf. Ocampos. Bah, il a joué aussi pas mal neuf, moi, je trouvais.
Quasiment que ailier ou numéro 10.
Ok, bon. Écoute, tu m'as remis en question. Et puis après, le dernier, c'était Franck Sauzet, un petit peu plus ancien. Pour les anciens, peut-être que ceux qui nous ont écoutés, plutôt anciens, sur le 101.5, l'ont trouvé, mais voilà. Sauzet. Pas de notre génération.
Franck Sauzet, commentateur FIFA, surtout, je connais.
Exactement.
Je connais plus comme ça, perso.
Exactement.
Ça aurait pu être l'indice. Voilà, pour ce petit quiz, ça fait plaisir. Paul, qui remporte cette fois la main, bravo. On va se laisser là. 20h56, on a un peu d'avance. Mais plus grand chose à dire.
Avec, on peut donner peut-être les résultats des deux matchs de 18h. Donc ça n'a pas bougé, comme c'était la 90e minute. Victoire 2-0 de Benfica face à l'Ajax. Donc l'Ajax en grande difficulté, qui est toujours bon dernier de cette phase de ligue.
Pas une seule victoire, ouais.
Et il me semble que Benfica, c'est peut-être leur première victoire, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils étaient tout en bas. Exactement, c'est même leur premier point, puisqu'ils étaient tout simplement à 0 point tout en bas. Ils étaient 35e également. Et puis c'est victoire de l'Union Saint-Gilloise, un petit peu surprise. Sur la pelouse de Galatasaray, réduit à 10. Donc,
L'OM devra faire attention aussi en s'y déplaçant, évidemment.
Exactement. Équipe intéressante.
Et ben voilà, pour cette émission, cette belle émission du mardi soir, une fois de plus. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne Ligue des Champions. Voilà, on vous libère 3 minutes en avance pour que vous ayez le temps d'allumer votre télé, allumer votre compte canal et lancer le match que vous souhaitez regarder ce soir. Nous, on va se quitter et on va vous souhaiter une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine.